Et c'est l'heure du journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Gideon Saar compte bien remporter la primaire du Likoud. Les adhérents du parti de droite au pouvoir en Israël votent aujourd'hui. Il est le principal rival du Premier ministre, à la tête aussi du Likoud, Benjamin Netanyahou.
Aux États-Unis, la campagne de Michael Bloomberg risque d'en prendre un coup. L'ancien maire de New York a eu recours, sans le savoir selon lui, à des prisonniers pour promouvoir sa candidature via des appels téléphoniques.
Environ 200 migrants ont été secourus hier par les gardes-côtes espagnols, des femmes, des hommes, des enfants épuisés qui tentaient de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune.
Kobili Traoré ne sera pas jugé aux assises pour le meurtre de Sarah Halimi. Il a été déclaré pénalement irresponsable. Il était en proie à une bouffée délirante au moment des faits liés au cannabis. Cette décision va-t-elle faire jurisprudence? On y reviendra.
20 ans après les intempéries de 1999, certaines politiques publiques ont évolué au niveau local en faveur de la protection de l'environnement. Exemple en Alsace. Qui pour diriger le Likoud? Les adhérents du parti de droite au pouvoir en Israël sont invités à participer à une primaire pour désigner leur chef de file. Un scrutin important avant les élections législatives du 2 mars, les troisièmes en moins d'un an. L'actuel dirigeant et premier ministre Benjamin Netanyahou est en difficulté. Il n'a pas réussi à remporter les deux dernières législatives et il est inculpé pour corruption dans trois affaires. Son principal rival a-t-il une chance? Gideon Saar, député et plusieurs fois ministre de Bibi, veut lui ravir le parti. Son portrait par Frédéric Mettezo.
Sa femme est une journaliste de la télé publique respectée pour son indépendance. Sa fille vit avec un acteur arabe et il demande qu'on la laisse tranquille avec ça. Et il a déposé une loi pour emprisonner les employeurs qui licencieraient des femmes enceintes et une autre pour interdire les tests cosmétiques sur les animaux. Mais Gideon Saar n'a rien d'un modéré au sein du Likoud. Au contraire, il représente l'aile dure sur la question palestinienne. Il est contre la solution à deux États et accuse Netanyahou d'avoir été trop mou en négociant avec Arafat dans les années 90 et en annexant pas la Cisjordanie. Gideon Saar, 53 ans, appartient à cette génération jusqu'ici sacrifiée par le long règne de Netanyahou. Ancien journaliste, il a été député puis ministre de l'éducation et de l'intérieur. Il n'attaque pas le premier ministre sur ses démêlés judiciaires, mais sur son incapacité à gagner les deux dernières élections. S'il remporte les prochaines, il dit qu'il soutiendra Netanyahou pour devenir président, mais c'est un cadeau empoisonné car ici, le chef de l'État n'a aucun pouvoir. Netanyahou accuse Saar de faire le jeu de la gauche et des médias. Saar pense, lui, que garder Netanyahou fera gagner la gauche. Les supporters de Bibi perturbent régulièrement les meetings de Saar qu'ils appellent le traître. Pour se moquer de lui, certains Israéliens surnomment Netanyahou César, car il possède une maison à Césarée au bord de la mer. Gideon Saar espère être son Brutus.
Frédéric Mettezo à Jérusalem pour France Culture. Benjamin Netanyahou était en campagne hier soir pour la primaire. Il a été évacué d'un meeting à Ashkelon dans le sud d'Israël à l'annonce de tirs de roquettes imminents depuis la bande de Gaza. En réponse, l'aviation israélienne a mené cette nuit des frappes sur cette bande de Gaza. D'une élection à une autre, la campagne pour la présidentielle aux États-Unis apporte son lot de polémiques. La dernière en date concerne l'ancien maire de New York et candidat à la primaire démocrate Michael Bloomberg. D'après des informations du site The Intercept que l'intéressé a confirmé, des détenus ont passé des coups de fil contre rémunération au nom du milliardaire Loïc Loury.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette pratique, dit Michael Bloomberg, et nous allons nous assurer que nos fournisseurs examinent de près leurs sous-traitants. En l'occurrence, des femmes détenues d'une prison de sécurité minimale dans l'Oklahoma, elles étaient donc rémunérées pour faire du démarchage téléphonique au nom du candidat. L'équipe de l'ex-maire de New York plaide la bonne foi, elle employait une compagnie spécialisée qui elle-même sous-traitait ses services et notamment jusqu'à ce centre carcéral. Les liens, affirme Michael Bloomberg, ont immédiatement été rompu, impossible en revanche de savoir précisément combien ces femmes étaient payées. L'affaire par ailleurs n'est pas une première. Jack Metcalf, un républicain, avait lui aussi employé des prisonniers en 94. Il avait été élu à la Chambre au terme de cette campagne. Peut-être Michael Bloomberg y verra-t-il un signe. C'est plus sûrement une illustration de la campagne hors sol que mène le milliardaire, lui qui a dépensé en 3 semaines 120 millions de dollars en publicité.
La correspondance à New York de Loïc Loury. Une deuxième attaque a été perpétrée dans le nord du Burkina Faso dans la nuit de mardi à mercredi, ont annoncé hier soir les autorités. Une dizaine de soldats burkinabés ont été tués. Le Burkina a décrété un deuil national de 2 jours après l'attaque d'Arbinda mardi près de la frontière malienne où 35 civils et 7 militaires sont morts. 80 terroristes avaient été neutralisés. Un typhon accompagné de rafales de vent atteignant 195 km/h a provoqué la mort d'au moins 16 personnes hier aux Philippines. Des dizaines de milliers d'autres de ce pays, majoritairement catholiques, ont dû quitter leur maison et passer Noël dans des abris. Le typhon aujourd'hui s'éloigne et s'affaiblit. Au moment de Noël, toujours, environ 200 migrants ont été secourus par les gardes-côtes espagnols. Ils avaient pris la mer à bord d'embarcations de fortune avec l'espoir de traverser la Méditerranée. Ils sont exténués mais vivants, Marie-Hélène Ballestero.
Les sauvetages en mer n'ont cessé ces dernières heures au large des côtes espagnoles. Hommes, femmes et enfants, tous prêts à risquer leur vie pour atteindre le continent européen. En tout, plus de 200 migrants ont été secourus dans plusieurs zones du sud du pays. Dans la province de Murcie, une cinquantaine de personnes d'origine algérienne ont été secourues par les équipes du service de sauvetage en mer espagnol et par la garde civile. Plus de 60 migrants d'Afrique subsaharienne sont arrivés sur l'îlot d'Alboran, à mi-chemin entre le Maroc et la péninsule ibérique, avant d'être emmenés au port espagnol de Motril, en Andalousie. Plus de 70 personnes ont été transportées également à Melilla et Ceuta, les deux enclaves espagnoles au Maroc. Et puis 22 migrants, tous adultes et en provenance du Maghreb, ont été secourus au sud de l'île de Grande Canarie. Malgré ces derniers sauvetages, les arrivées de migrants par la mer en Espagne ont diminué de 55% cette année par rapport à 2018, selon le ministère de l'Intérieur. Mais il y a une exception, les îles Canaries, où elles ont augmenté de 70%.
Mais dans son message hier, Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape François a redit son soutien aux migrants. C'est l'une des priorités de son pontificat. Il a déploré, je cite, les murs d'indifférence qui se dressent sur leur chemin alors qu'ils recherchent une vie sûre. Elle a été persona non grata pendant presque 10 ans. Aujourd'hui, la Grèce n'a plus de mal à faire financer ses déficits sur les marchés financiers. Elle compte emprunter 4 à 8 milliards d'euros. Vous nous expliquez, Marie Viennot.
Ce qui explique que la Grèce n'effraie plus les investisseurs, c'est d'abord son application rigoureuse des conditions fixées par ses principaux créanciers, c'est-à-dire les pays de la zone euro et le FMI. La Grèce n'est plus officiellement sous assistance financière depuis 18 mois, mais sa politique économique et budgétaire reste contrainte par une feuille de route très précise. Or, le dernier vote du budget grec va au-delà des excédents fixés par ses créanciers. La croissance de son PIB est autour de 2%, comme celle de la zone euro, et le FMI reconnaît les progrès du nouveau pouvoir grec en faveur des réformes. Autant d'éléments qui rassurent les investisseurs privés, fonds d'investissement, banques, assureurs, etc. Ce qui explique aussi que la Grèce redevienne attractive sur les marchés, c'est que, vu son passé tourmenté, lui prêter rapporte bien plus que prêter aux autres pays de la zone euro. Prêter sur 10 ans à la Grèce, c'est espérer des taux d'intérêt de 2 à 3%, des taux positifs donc, alors que pour prêter à la France ou l'Allemagne sur 10 ans, les taux sont négatifs et les investisseurs doivent donc au contraire payer pour prêter à ces pays. Cette situation est inédite et anormale, mais elle s'installe car les milliers de milliards déversés par les banques centrales depuis la crise de 2008 cherchent à se placer, si possible, sans risque. Même la Grèce a pu emprunter à des taux négatifs pour des emprunts à 3 mois en octobre dernier. Que des prêteurs soient prêts à perdre de l'argent pour faire crédit à la Grèce, c'était inconcevable auparavant. Et c'est aussi le signe que ça ne tourne pas très rond dans la planète finance en ce moment.
Marie Viennot du service économie de France Culture.
Il est 8h09 sur France Culture, la suite de votre journal Margot Delpierre. Et comme c'est le cas depuis chaque jour, depuis le 5 décembre, des perturbations sont à prévoir dans les transports.
Un TGV sur 2 circule aujourd'hui selon la SNCF, un Transilien sur 5 et 4 TER sur 10. 4 lignes du métro parisien sont totalement fermées, ajoute la RATP. Beaucoup ne fonctionnent qu'aux heures de pointe. La SNCF rappelle que tous les trains sont ouverts à la réservation jusqu'au 29 décembre inclus, sont garantis de circuler. articulée. Les grévistes entament leur 4e semaine de mobilisation. La concertation doit reprendre le mardi 7 avec le gouvernement avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 22 janvier. Et c'est la SNCF qui remporte cette année le Cactus d'or décerné par 60 millions de consommateurs. Prix récompensant l'entreprise ayant le plus gâché la vie des consommateurs. Le groupe public qui se démarque pour ses problèmes d'accès au guichet, les nouvelles cartes de fidélité moins avantageuses, les billets chers et les problèmes de ponctualité selon le magazine. De la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen à la maire de Paris Anne Hidalgo, de l'écrivain Bernard-Henri Lévy au dessinateur Johann Sfar, de nombreuses personnalités ont exprimé leur consternation après une décision de justice très commentée. La semaine dernière, la cour d'appel de Paris a déclaré irresponsable pénalement Kobili Traoré, poursuivi pour le meurtre de sa voisine Sarah Halimi au cri d'Allah Akbar. C'était en avril 2017 dans le 11e arrondissement. Il était, selon les psychiatres, en proie à une bouffée délirante aiguë pendant les faits, possiblement aggravée par la prise de cannabis. Les juges ont retenu le caractère antisémite du crime mais estimé que le discernement de l'auteur était aboli. Il ne peut donc pas être jugé. Il est en ce moment hospitalisé en psychiatrie, Corinne Audouin.
Pour décider de l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, les trois magistrats de la cour d'appel se sont basés sur le diagnostic des experts psychiatres. Au moment des faits, l'homme était en proie à une bouffée délirante aiguë, un épisode psychotique au cours duquel il croyait être poursuivi par des démons. Le cannabis aurait joué dans cette crise un rôle de déclencheur. C'est là que les experts divergent. Pour le docteur Zaguri, Kobili Traoré, ayant pris volontairement du cannabis, doit être jugé. Pour les six autres experts, ils ne pouvaient pas savoir que le cannabis allait déclencher cette bouffée délirante. Il ne peut donc être pénalement responsable. Les magistrats ont tranché en faveur de l'abolition du discernement, une décision qui n'est pas une première juridique. Thomas Bidnik est l'avocat de Kobili Traoré.
Certains voudraient faire croire, voudraient faire peur en disant qu'à partir de maintenant, qu'il y a quelque chose de changé et que le cannabis, finalement, c'est un permis de tuer. C'est totalement faux, c'est absurde. On est dans un cas particulier, il n'est pas responsable de ses actes. Et c'est ça que beaucoup ont du mal à supporter. On est submergé par l'émotion, on pense plus et c'est extrêmement dangereux.
La famille de Sarah Halimi s'est pourvue en cassation. L'affaire va donc être réexaminée dans les prochains mois.
Corinne Audouin. Trois personnes ont été blessées par balle hier soir à Besançon, dont deux grièvement. Cela s'est passé dans le quartier de Planoise. Un adolescent de 14 ans est lui légèrement blessé. Et les moins de 20 ans ne peuvent pas s'en souvenir. Le 26 décembre 1999, la tempête Lothar commençait à souffler. 92 personnes sont mortes dans ces intempéries de décembre en France. Deux tempêtes en tout avaient privé près de 3,5 millions de foyers d'électricité. Parmi les communes très touchées, on peut citer Salles dans le massif vosgien, situé en pleine forêt et en haut d'un col. Depuis, la vie des habitants a changé, tout comme les politiques menées par la commune. Le maire Jean Vogel était déjà en fonction à l'époque.
Salles a une particularité très forte, c'est que c'est l'unique commune du massif vosgien et probablement de France à être située au sommet d'un col. Et donc, comme c'est le col à plus basse altitude du massif vosgien, il y a un effet d'entonnoir et les vents se sont engouffrés là avec une vitesse jamais vue. Et de chez moi, j'ai vu des milliers d'arbres se coucher et on a été coupé du monde pendant plus de 3 jours, en plein hiver, avec 30 cm de neige. On avait des routes où il y avait un empilement de bois de 4 à 5 mètres de haut. Ça a été un véritable traumatisme et ça nous a obligés et surtout incités à nous orienter véritablement vers une politique de développement durable qui a débouché sur la création d'une chaufferie urbaine, ce qui est rare dans un village de moins de 1000 habitants, où on a la particularité de vendre 60% de l'énergie produite. Voilà, je passe sur une centrale photovoltaïque, on est... En mètres carrés, panneaux solaires, on est au même niveau que l'Autriche. Et bien entendu, on a également mis en place ce projet éolien de 10 éoliennes. Et je dois dire que je remercie vraiment les gens de Salles et des environs d'avoir fait bloc derrière tous ces projets.
Jean Vogel, des propos recueillis par Léo Juanol. Autre triste date anniversaire, le 26 décembre 2004, un tsunami géant de près de 30 mètres de haut avait frappé le Sri Lanka, la Thaïlande et l'Inde. L'Indonésie avait subi les plus lourdes pertes avec au moins 170 000 morts. Ce tsunami a fait plus de 220 000 victimes, c'était il y a 15 ans. La Charente-Maritime est encore placée ce matin en vigilance orange pour des risques d'inondation. Météo France prévoit par ailleurs un temps plutôt gris ce matin sur l'ensemble du pays, plus lumineux sur le sud. Attention aux gelées matinales, plus sévères en montagne. Vous n'aurez pas plus de 6 degrés à Lille, 4 à Strasbourg, 11 à Paris, 14 à Bordeaux, 15 degrés à Nice et 16 à Ajaccio.